6-9 de l'été sur France Inter.
Et c'est notre invité à 7h50. On en viendrait presque à penser qu'on s'en est débarrassé. L'épidémie de coronavirus marque le pas en France, mais dans de nombreuses régions du monde, la crise reste aiguë, voire empire. Pour en parler ce matin, direction Genève, où se trouve le siège de l'OMS. Bonjour docteur Didier Pitté.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue, épidémiologiste aux hôpitaux de Genève et à l'OMS. Commençons par les États-Unis. Les Américains ont célébré hier leur fête nationale en se rassemblant. Au risque de former de nouveaux foyers de contamination, il faut s'inquiéter.
Écoutez, oui, la situation aux États-Unis est mauvaise, il faut le dire, avec toute une série d'États dans lesquels le nombre de cas ne cesse d'augmenter. En fait, on a vu typiquement aux États-Unis une vague importante, suivie d'une forme de plateau, avec ensuite des redémarrages dans toute une série d'États. Oui, la situation est effectivement mauvaise aux États-Unis et il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter car on n'a pas l'impression que ni la population, ni peut-être, ni certainement le gouvernement ne comprennent actuellement les interventions qu'il faut faire, les changements de comportement qu'il faudrait obtenir.
Oui, le docteur Fauci, qui est la grande autorité sanitaire là-bas, le docteur Anthony Fauci, il dit lui-même, il est évident que nous n'avons pas le contrôle total actuellement. C'est quand même très inquiétant.
Absolument. Absolument, oui, tout à fait. Anthony Fauci est quelqu'un d'extrêmement capable. Il voit la situation de manière très claire, mais malheureusement, il n'est pas suivi.
C'est la faute de Donald Trump qui ne prend pas les décisions adéquates ?
Écoutez, je pense que l'administration Trump ne voit pas très 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 bien la situation, ou alors probablement prend des décisions qui sont contraires au bon sens parfois, en fonction d'autres paramètres, mais en tout cas pas en fonction des paramètres sanitaires, ni même probablement en fonction des paramètres économiques, parce que parfois, à trop vouloir finalement laisser aller les choses, on le paye plus tardivement au plan économique, et je ne pense pas que ce soit des bons calculs.
Alors les États-Unis payent déjà un lourd tribut, c'est quand même un quart des décès mondiaux qui sont enregistrés là-bas. Sur 522 000 morts dans le monde, il y en a 129 000 déjà aux États-Unis à cause du coronavirus. Et c'est surtout le nombre de nouvelles infections chaque jour qui a battu des records ces derniers jours.
Oui, absolument. On a plus de 50 000 nouvelles infections chaque jour. Alors, on veut bien croire que c'est parce que les tests sont réalisés à large échelle, mais ça n'est pas la seule explication du tout. C'est tout simplement le manque de contrôle de l'épidémie qui explique ces chiffres et qui sont certainement sous-estimés, comme ils le sont d'ailleurs dans tous les pays du monde, parce que avec ce virus, il est impossible finalement de connaître tout. Les personnes qui sont touchées par le virus, certaines fois, il n'y a que tellement peu de symptômes qu'on ne peut même pas le réaliser, on ne fera même pas de test. Donc on sous-estime toujours le nombre de cas positifs.
Et c'est la même souche aux États-Unis qu'en Europe, ou c'est une souche qui est plus contagieuse ?
Non. Écoutez, c'est la même souche. Vous savez, ce coronavirus mute, bien entendu, comme la plupart des virus, mais il ne mute pas de façon exagérée. Pour nous, épidémiologistes, il mute juste suffisamment pour qu'on puisse le tracer, c'est-à-dire pour qu'on puisse comprendre, au fond, à partir de nouvelles infections, d'où vient le virus. C'est utile au plan épidémiologique, mais ces mutations n'ont aucun effet sur la virulence du virus. Donc le virus est toujours le même, et au fond, les mesures qu'on appelle les mesures barrières, que ce soit la distance sociale ou l'hygiène des mains, sont les deux mesures principales. Et ces mesures-là, lorsqu'elles sont appliquées, fonctionnent parfaitement bien, mais encore faut-il pouvoir les appliquer.
Alors au-delà des États-Unis, les Américains subissent durement la Covid. Deuxième pays le plus touché dans le monde, c'est le Brésil. Là aussi, c'est un problème politique. C'est parce que Jair Bolsonaro ne prend pas les bonnes décisions, il ne prend pas de décision du tout.
Absolument. Alors, on est dans une situation qui est un tout petit peu différente parce que lui prend certaines décisions de manière extrêmement variable et au fond, il nie au fond le phénomène. Mais dans un pays évidemment qui souffre beaucoup, surtout dans certaines zones du pays qui souffrent beaucoup, dans lesquelles de toute manière c'est assez compliqué de contrôler la situation. Et lorsque finalement les consignes ne sont pas claires, eh bien évidemment se passe ce qu'il doit se passer, c'est-à-dire une propagation virale très rapide et malheureusement des décès importants. Il y a évidemment beaucoup de soucis à se faire pour le Brésil également, quand on voit que notamment le coronavirus a remonté toute la zone amazonienne et on imagine les dégâts importants tant sur la population que sur l'économie et sur les effets de société.
Alors, l'Organisation panaméricaine de la santé prévoit plus de 400 000 morts dans les 3 prochains mois si rien n'est fait. Ça vous paraît un chiffre réaliste aujourd'hui ?
Écoutez,
c'est assez effrayant, 400 000 morts.
Oui, c'est un chiffre qui fait peur, mais c'est un chiffre qui est certainement, à bien comparé à ce qui se passe dans ces pays-là. Il y a des pays, on a vu que quand la vague épidémique est passée en Équateur, au fond, il y a eu beaucoup, beaucoup de décès. On a dû enterrer finalement toute une série de personnes sans même pouvoir faire le diagnostic au départ. Ensuite, ça a été confirmé comme étant du Covid, n'est-ce pas ? Et il y a des tas de pays dans lesquels nous n'avons pas toujours les moyens de bien diagnostiquer ce qui s'y passe. Le Chili, par exemple, qui est un pays bien organisé au plan de la santé, a aussi bien souffert de l'épidémie et en souffre encore. Le Pérou aussi. Donc, il y a pratiquement tous les pays d'Amérique latine et d'Amérique du Sud. Le Mexique est actuellement en train de souffrir alors que, au fond, le pays s'était très 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 rapidement mis en lockdown, comme on l'appelle.
En confinement,
oui. La propagation du virus sur l'Amérique latine et l'Amérique du Sud est extrêmement importante et difficile parfois à contrôler, malheureusement.
Docteur Pité, venons-en à l'Europe, puisque eh bien là aussi les inquiétudes reviennent. En Espagne, par exemple, on apprenait hier que la Catalogne confinait 200 000 personnes à Lérida, idem à Lisbonne. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'arrivée d'une deuxième vague en Europe ?
Alors écoutez, pour l'instant, je dirais que nous ne sommes pas en train de discuter de l'arrivée d'une deuxième... Enfin, on peut en discuter, mais on est en fait dans la fin de la première vague. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le confinement a été efficace, et il l'a été au fond dans tous les pays dans lesquels il a été bien appliqué, il a été très efficace et maintenant nous devons d'identifier immédiatement tous les nouveaux foyers épidémiques et évidemment de les contrôler avec les mesures habituelles. Lorsque ces mesures habituelles ou lorsque on ne comprend pas les foyers et les modes de transmission, le mode est toujours le même, mais la chaîne de transmission, lorsqu'on n'arrive pas à la comprendre, on est obligé d'avoir des mesures plus importantes. On l'a vu en Allemagne autour de cet abattoir.
Les abattoirs,
extrêmement
oui.
Important. Mm-hmm. Oui, oui, tout à fait. Où là, on a dû finalement bloquer une région qui couvrait environ 600 000 personnes. Ici, en Espagne, on est dans une région qui fera 200 000 personnes environ. Et ça prouve simplement que les mesures de santé publique sont mises en place. On l'espère, elles seront efficaces si la population les comprend bien, si elles sont bien appliquées. Et c'est attendu. On ne peut pas parler encore de deuxième vague, puisque, en fait, pour parler de deuxième vague, il faut avoir résolu pratiquement la première vague, c'est-à-dire n'avoir plus qu'un nombre de cas extrêmement faible, et puis ensuite ne
pas
parvenir à contrôler. Écoutez, dans certains pays, on en est vraiment là, et dans d'autres, on voit que le nombre de cas reste quand même relativement important, ce qui veut dire qu'il faut continuer à contrôler. Maintenant, ce qui est une partie extrêmement importante du contrôle, en dehors, comme je l'ai dit tout à l'heure, du comportement, distance sociale, hygiène des mains, masque, parfois dans certaines situations lorsqu'on ne peut pas respecter la distance sociale, eh bien il y a cette stratégie qui consiste à se faire tester, c'est-à-dire subir le test diagnostique pour Covid, de manière à prouver que lorsque vous avez les moindres symptômes, vous avez ou non la maladie due à Covid. Et quand c'est le cas, évidemment, vous serez isolé et vos contacts seront testés. Et c'est simplement le fait aujourd'hui de cette activité de santé publique qui est au fond la clé de la maîtrise de la situation. C'est le fait de ce test à large échelle qui fait qu'on diagnostique des nouveaux cas et donc parfois des foyers qu'on a un tout petit peu de peine à contrôler.
Docteur Didier Pité, est-ce qu'il faut craindre une nouvelle flambée de l'épidémie cet été quand les touristes vont passer d'un pays à l'autre puisque les frontières ont rouvert ?
Écoutez, il est bien entendu que tout ce qui augmente la densité de population. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez des mouvements, à chaque fois que vous avez un certain nombre de personnes qui se croisent, parce que, n'est-ce pas, on dit toujours le virus circule. Le virus ne circule pas, ce sont les gens qui circulent oui. avec le virus, les individus qui transportent le virus. Et lorsque les contacts sont rapprochés, eh bien, il y a évidemment risque de transmission du virus. Évidemment que lorsqu'on applique les mesures barrières, ce virus ne se transmet pas. Il y a certaines situations où c'est plus compliqué d'appliquer les mesures barrières et il faut faire ce qu'on appelle du tracing, c'est-à-dire vraiment de savoir tracer, qui a été oui. avec qui, voilà, tracer les
retrouver
contacts.
Retrouver les cas, ouais.
Exactement, pour pouvoir les retrouver. On prend l'exemple d'une discothèque. Voilà, on comprend que dans une discothèque, on ne respecte pas les mesures de distance sociale. On peut respecter les mesures d'hygiène des mains au départ, mais enfin, voilà, il va y avoir transmission de virus très probablement. Et donc, il faut avoir la capacité de tracer toutes les personnes qui sont venues dans cette discothèque. Et pour ça, il faut être respectueux des consignes. C'est-à-dire que si on vous demande votre numéro de téléphone, votre nom, vous devez les donner de manière à ce qu'on puisse ensuite vous retrouver pour comprendre les chaînes de transmission. C'est l'essence de la stratégie. Alors,
merci
toutes
beaucoup.
Ces mesures sont bien placées, bien utilisées, eh bien, on pourra peut-être contenir ces situations.
Très bien, merci beaucoup Didier Pité, spécialiste suisse des épidémies à l'OMS notamment. Vous étiez en direct de Genève et je remercie aussi les équipes de la RTS et Eric Develay de la radio-télévision suisse qui ont permis ce duplex ce matin.